Salut les amis.
Salut l'ami.
Ah oui, c'est pas la bagarre aujourd'hui.
Ah, week-end de Pâques.
Mais... Regardez le bureau, il y a plus de décès que de ressuscités.
Ah bah ça c'est encore une belle contradiction de l'équipe parce
Pourquoi tu dis ça?
Bah, les gens ils passent leur temps à faire les athées.
Ah oui,
et puis dès qu'il y a une fête religieuse, tout le monde en profite.
Ah non mais c'est vrai, t'as raison.
Et puis ils vont faire les gens ouverts, donc on va devoir fêter Hanouka, l'Aïd.
C'est pas cool pour les réaliens, les témoins de Jéhovah.
T'as raison. Parlons de témoins de Jéhovah.
Il y en a quand même pas à Radio France.
Ça manque pas de gens bizarres.
Ouais.
Ouais. J'ouvre.
Hey, salut les amis.
Salut Fred.
Mais qu'est-ce que tu fous là?
Je
venais vous vendre des jeux de mots pour l'émission.
C'est peut-être pire qu'un témoin de Jéhovah en fait.
J'ai le classique. Bon week-end Pascal. Moi c'est Frédéric.
Ouais, c'est excellent.
Mais alors on va pas le temps.
Malheureusement, on doit préparer l'émission. Voilà. Les filles sont pas là.
Attendez, j'en ai d'autres.
Non, mais c'est gentil.
Non, en plus le CSA a demandé qu'il y ait plus de jeux de mots avant le premier tour.
Oui, je sais. C'est pour ne pas désavantager François Fillon.
Merci,
voilà,
Fred. Voilà.
Allez,
à vendredi. On s'en reparle. Oh, le boulet, on s'y remet.
Mais Charline, elle va pas venir du tout, là.
Mais j'en sais rien, c'est pas sûr.
Imagine qu'on fasse une émission géniale.
Bah alors là, l'an prochain, ils vont nous donner toute la tranche et la mère Valounaker, tu vas la retrouver à la météo marine.
Mais il y en a même plus, une météo marine.
Bah c'est bien pour ça qu'on va la mettre là.
Mais qu'est-ce qu'elle va dire, Charline, si on lui prend sa place?
De se soumettre à la loi du talent, mon
Dieu. Mais oui, mais faudrait pas qu'on donne l'impression d'avoir voulu lui prendre quand même.
Ah, c'est malin, il faut qu'on passe pour des types bien.
Et voilà, comme Jésus.
Jésus,
oui, exactement.
Bien sûr.
Faut juste être certain qu'elle entendra jamais ce qu'on vient de dire, par exemple.
Mais pourquoi est-ce qu'elle entendrait ce qu'on vient de dire?
Non, mais il y a pas de raison, mais je veux dire.
Non, pas de raison.
Non.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous, bonjour Alex, bonjour Guillaume, je suis de retour.
Oui, content que vous soyez venus.
Bien sûr, vous écoutez l'émission qui fait donc ressusciter l'actualité et alléluia, voici les trois informations qui attendent leur résurrection. Erdogan vient d'être officiellement converti dictateur, mais en remportant le référendum avec 51%, le gars est vraiment un tocard en matière de dictature. Hein. 51%, il en a une toute petite.
Oui, je suis impuissant, plus je vous emmerde.
L'aide au développement figure au programme de la plupart des candidats, mais elle s'est perdue en rase campagne électorale. Pas un mot dans les débats, alors que la France aspire toujours à faire partie des leaders de la communauté internationale.
Vous avez dit communauté internationale?
Les jeunes des quartiers parlent une langue qui est leur norme à eux. Donc ils méritent un dictionnaire et pourquoi pas une académie? Parce que s'ils doivent rentrer dans le moule de celles qui pioncent sous la coupole, ça donne ça.
Bonjour mademoiselle, en quoi puis-je servir d'utilité à vos renseignements?
Et moi je suis accompagnée de celui qui a sorti sa marinière mais qui ne touchera jamais un mixeur, c'est Alex Vizor.
Je vous le confirme. Bonjour Charline Valounaker et aujourd'hui autour de la table, attention 17h20, surprise, on a donné une carte blanche à une humoriste burkinabé. Elle viendra nous donner son regard sur la Gaule. Terminez donc la France-Afrique. Bonjour à l'Afrique en France. Bonjour à Rukyata Ouedraogo.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler?
De plein de choses.
C'est déjà pas mal. Vous avez bien compris le principe de l'émission. 17h30, d'Afrique, il sera encore question car il a décidé de passer les coups de téléphone à des gens qui, comme lui, sont payés pour raconter des conneries. Bonjour la concurrence, bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. À une semaine du premier tour, je me suis intéressé au sondage avec, et c'est vrai, mes propres instituts. Par exemple, le professeur Sissoko qui étudie la magie.
Moi je suis noir, moi je suis blanc, moi je suis rouge.
Voilà, magie rouge pour Mélenchon.
Toutes les couleurs. Et 17h40, celle qui ne veut pas savoir ce que disent d'elle les marabouts. Non, elle préfère lire son avenir dans le Malibu. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, jamais le Malibu. Jamais.
Ah, mais quand même. De quoi on parle?
Moi je me suis intéressée au roi qu'on appelait Zibeline.
Très bien.
Et voici celui qui a annulé son jour férié pour nous. Vous êtes médecin, diplomate et écrivain. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans pour diverses ONG en Éthiopie, au Nicaragua, en Afghanistan, au Rwanda ou dans les Balkans. Au Sénégal, vous avez été ambassadeur sous la présidence Sarkozy avec Kouchner aux affaires étrangères. En 2008, vous entrez à l'Académie française. Vous avez écrit des essais, des nouvelles et des romans, dont Rouge Brésil couronné du prix Goncourt. On vous a reconnu. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Jean-Christophe Ruffin.
Bienvenue sur France Inter. Charline Valounaker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout.
Bienvenue Jean-Christophe Ruffin.
Merci Charline.
La figure de l'écrivain diplomate, c'est le fantasme français. Vous auriez dû vous présenter comme président de la République. Vous avez le profil.
Ah mon Dieu.
Vous savez ça?
Mais je vous ai rien fait.
Vous venez nous voir, Jean-Christophe Ruffin, pour votre nouveau roman qui s'appelle Le Tour du Monde du Roi Zibeline, paru chez Gallimard. Auguste Benjovski. 1746-1786, nous sommes au 18e, hongrois ou polonais ou les deux.
Oui.
On ne sait pas très bien au départ. Il a fait la guerre en Europe. Il a été prisonnier au Kamtchatka. En Russie, n'est-ce pas? Il s'est évadé, il a navigué de l'Alaska au Japon, en Chine, pour finir roi de Madagascar. Et dans votre roman, avec sa femme Afanasie, il vient raconter tout ça à Benjamin Franklin, le rédacteur de la Constitution des États-Unis. Ma première question concernant ce récit qui est une épopée humaine à partir d'un seul homme et de sa femme aussi, on va en reparler du rôle qu'elle joue. Au départ, c'est un jeune noblion qui, grâce à son précepteur très éclairé, sort enfin des murs du château et découvre la vie. Et est-ce que toute sa vie n'aura de cesse de repousser les murs jusqu'à voyager à travers le monde? C'est cette épopée-là que vous nous racontez?
Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, j'insiste sur le fait que c'est un personnage historique, donc c'est une histoire vraie. Mm-hmm. Et ça paraît d'ailleurs très étonnant, parce que moi, quand j'ai lu ses mémoires la première fois, je dois dire que c'est presque, comme toujours, le vrai est toujours invraisemblable. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu faire en l'espace de 45 ans, parce que les dates que vous avez données sont pas tout à fait... sa date de naissance est un peu plus incertaine que ça. Mais voilà, bon, dans un espace aussi court, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu des choses absolument extraordinaires. Et il a été connu pendant très longtemps en France et en Europe comme le prototype de l'aventurier. C'était comme Casanova était le séducteur et Wieniawski était l'aventurier. Et puis c'est finalement plus tard, au 19e siècle, quand on a préparé la colonisation pour de bon de Madagascar, que cette figure qui était beaucoup plus ouverte, en fait, était intolérable pour les Français, et les historiens coloniaux l'ont complètement diffamé, l'ont complètement calomnié en disant ce type était un escroc, un affabulateur et tout. Mais il y a toujours des rues qui portent son nom à Madagascar, parce que les Malgaches le considèrent comme un peu le premier combattant de l'indépendance de leur pays, aussi bizarre que ça paraisse. Donc il a effectivement repoussé les murs de son château, mais très loin, très très loin. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il s'y attendait au départ, c'est un peu une série de hasards et d'accidents.
Oui, oui, qui le pousse à chaque fois à reprendre la mer avec l'équipage. Il s'est échappé, il faut dire, du Kamtchatka.
C'est-à-dire qu'il avait choisi, il avait choisi le métier des armes parce que c'était dans son, j'allais dire dans ses gènes, et puis dans cette espèce d'Europe centrale de l'époque qui était un peu floue. C'est pour ça qu'on ne sait pas si les Slovaques ou Hongrois, etc., parce que les frontières ont beaucoup bougé dans ces coins-là. Il était naturellement prédisposé à se battre, à devenir un militaire. Et puis il a fait la guerre aux Russes et il s'est fait prendre, il s'est fait capturer, il s'est évadé une première fois. Finalement, ils ont dit ce type-là, carrément s'en débarrasser, et l'a envoyé en Sibérie. Et là, il a traversé toute la Sibérie à pied, parce que les condamnés, là-bas, on les a envoyés à pied. Puis s'est retrouvé au fin fond du Kamtchatka, il s'est évadé. Voilà. Mais tout ça, c'est pas, si vous voulez, normalement, il aurait pu faire une carrière tranquille dans son pays d'origine. Et puis, comme certains quittent la Belgique, d'autres quittent la Hongrie, ça
arrive.
Peut-être
que son précepteur éclairé n'y est pas pour rien, d'ailleurs. Et aussi sa femme Afanasie, parce que vous le disiez, vous êtes parti des mémoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de creux à combler dans l'histoire, c'est-à-dire que vous aviez les mémoires en main. Et Afanasie, sa femme, elle avait, dans les mémoires d'Auguste, elle n'a pas tellement de place. Est-ce que vous ne l'avez pas un petit peu réhabilité? C'est la part du romancier aussi, ça?
Si, mais c'est-à-dire que je ne voulais pas d'abord paraphraser les mémoires. Donc je voulais en même temps un récit direct, c'est-à-dire à la première personne, mais avec deux personnages. Parce que le XVIIIe siècle, au fond, c'est ça que je voulais un peu restituer dans le climat intellectuel de cette époque. C'est le siècle de la conversation. C'est le siècle où on invente... la conversation. En France, dit-on. Mais en tout cas, cette idée que dans les salons, les hommes et les femmes en particulier pouvaient converser, c'est-à-dire parler d'égal à égal. C'est un siècle très grec, finalement, dans lequel on pensait que la vérité naissait de la confrontation des points de vue. D'ailleurs, les romans de Diderot sont toujours des dialogues comme ça, où finalement on échange un point de vue. J'aime beaucoup cet aspect-là. Donc, j'avais besoin de deux personnages de même poids. Et alors, je ne dis pas que j'ai gonflé la fille pour lui, mais c'est vrai que, et si vous voulez, il a toujours été accompagné par une femme. Le problème, c'est que c'était pas toujours la même. Voilà.
C'est un peu un marin, quand même.
Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai ramassé un petit peu tous ces éléments féminins épars, si j'ose dire, pour en faire un personnage de femme qui, j'allais dire, accompagne cet homme et surtout l'influence et au fond presque le détermine. Et c'est ça qui m'intéressait.
Dans le tour du monde du roi Zibeline, paru chez Gallimard, Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Donc là, je pense qu'on est autorisé à faire un petit voyage au Brésil aussi, grâce à vous. Vous êtes sur France Inter.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. O tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem essa moça.
Chico Buarque sur France Inter. Je ne m'aventurerai pas à dire le titre, mais vous qui avez vécu au Brésil, Jean-Christophe Ruffin.
Essa moça tá diferente?
Oui. Oh, c'est bon. Oh là là, et puis vous
ça
le dites
dire,
bien.
Ça veut dire cette fille a quelque chose de plus, de différent, vous voyez.
C'est ça qui raconte.
Ça marche. J'ai déjà utilisé cette technique.
Et pour entourer Jean-Christophe Ruffin, Alex.
Eh bien, Guillaume Meurice, comme d'habitude. Alors Juliette Arnaud, comme très souvent. Et puis, surprise, qui est à mes côtés, Rukyata Ouédraogo, qui vient nous faire une première, une carte blanche. Elle nous parlera de la France avec son œil du Burkina Faso.
Très bien. Allez, il est 17h20 au péage de Villefranche-sur-Saône. On vous avait dit de partir avant 15h. Vous êtes bloqué dans la voiture. C'est pas grave. Allez, l'info.
Le journal de presque 17h17.
Parce que c'est notre projet.
Et on commence par les titres.
Hier, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Toulouse et ce fut un énorme succès populaire.
Et oui, le PS est déprimé, même la ville rose se tourne vers Mélenchon.
Selon un sondage, François Fillon reviendrait à un point d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.
Oui, c'est vraiment Pâques, hein. Le mec était mort et voilà qu'il ressuscite.
Alors, on ne sait pas s'il va être élu, ni même s'il va passer le premier tour.
Oui, mais on dirait que son programme est déjà appliqué. On est un jour férié et moi je suis là à France Inter à travailler quand même.
Oui, des brèves.
Oui, bien sûr, parce qu'à Pâques aussi, la résurrection est brève.
Hier, c'était pour les catholiques la fête de Pâques.
Ils souhaitent la fête préférée de Christine Boutin.
Oui,
évidemment.
Forcément, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle aime bien l'idée qu'un type qu'on croyait mort, en fait, il n'était pas mort. Ça lui rappelle Jacques Chirac.
Ah, d'accord. Ouais. Allez, politique vraiment, commençons par Emmanuel Macron.
Oui, vendredi, lors de son discours sur l'enseignement supérieur, il semblait un peu découvrir les choses.
Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire que Moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté.
Eh ouais, bien joué la clarté, évidemment. Mais non, mais parce que les gens se sont moqués. Hein. Je vous ai vu autour de la table, vous avez ri. Excusez-moi, mais il y a encore un mois, le gars n'avait pas de programme du tout. Bon, là, il faut le temps qu'il l'étudie un peu. Mais
bien sûr. Passons à François Fillon. Oui. En meeting au Zénith à Toulouse, trois personnes se seraient fait exclure par la sécurité en raison de leur manque d'enthousiasme.
Alors, si le manque d'enthousiasme est un critère d'exclusion des meetings de François Fillon, il se peut qu'un jour, il se fasse exclure lui-même. Attention donc.
On reste à droite sur Twitter. Hier, Laurent Wauquiez a écrit ceci. Soutien à Sens Commun injustement caricaturé.
Et ça, c'est vrai, parce que je rappelle que Sens Commun avait comparé l'homosexualité à la pédophilie, voire parfois à la zoophilie. C'est donc terriblement injuste de les caricaturer d'homophobes rétrogrades.
Marine Le Pen était l'invitée de l'Institut de sondage BVA et elle l'a répété, la population immigrée en France ne travaille pas, dit-elle.
Mais oui, mais elle n'a pas vu le côté positif. Au moins, ces gens ne prennent pas le travail des Français, voilà. Qu'ils ne travaillent pas.
Jean-Luc Mélenchon fait aujourd'hui campagne à Paris. Oui. Il sillonne la capitale à bord d'une péniche.
Oui, quant à Benoît Hamon, il continue sa campagne également sur un bateau.
Ah, oui ?
Oui, oui, apparemment, j'ai lu qu'il était sur le Costa Concordia.
Ah, bon. Sur France 5, François Hollande a estimé que Jean-Luc Mélenchon ne représentait pas la gauche qui permet de gouverner.
Oui, c'est marrant ça, parce que François Hollande, lui, il représente la gauche à qui on ne va plus permettre de gouverner.
François Hollande est le premier président à avoir honoré dimanche le souvenir de la bataille du Chemin des Dames.
C'est normal que ça soit lui qui s'occupe de ça. C'est un chemin où il a beaucoup souffert à titre personnel également.
Passons à votre chouchou, Jean
Mais
Lassalle.
Oui, Jean Lassalle, c'est mon chouchou, je suis désolé. Moi, je le dis, je suis ouvert là-dessus. BFM Télé est allé à la rencontre de sa maman, Marie Lassalle. Et il y a deux points communs évidents. Le premier, eh bien, c'est l'accent.
Dans les sondages,
c'est
il est vraiment
les sondages qui vont voter. C'est le plus beau. Il a un regard qui sort des tripes, lui. Vous allez le voir. Vous allez revenir pour venir me féliciter.
Et le second, c'est que elle aussi, elle voit son fils au deuxième tour.
Culture à présent. Hier, 500 000 personnes ont assisté à la manif concert organisée sur les Champs-Élysées par l'association Solidarité SIDA dans le cadre du Printemps Solidaire.
Ben oui, mais c'est dommage de ne pas avoir confié le comptage à Bruno Retailleau. Il aurait pu lancer 3 millions de participants.
Allez, quelques brèves.
De Bayonne d'abord, des steaks de chat retrouvés dans le congélateur d'une retraitée.
Ah, oui.
Oui, mais c'est sans doute la mère de Véronique Courgeot qui a voulu offrir un animal de compagnie à ses petits-enfants.
La dernière vient de Belgique.
Oui, Belgique, vous n'allez pas être déçus. À Jumet, ils tentent de braquer un commerce fermé. Alors, je vous lis l'article vraiment sans changer une virgule. Trois auteurs ont ainsi entrepris de braquer le Carrefour Market de Jumet. Lorsqu'ils sont arrivés devant le commerce ce vendredi à 19h35, armés et le visage dissimulé, un employé leur a signalé que le magasin était simplement fermé. Cambrioleur, c'est avant tout un métier.
Merci Alex, vous êtes sur France Inter,
pour rien.
En compagnie de Jean-Christophe Ruffin, qui publie Le Tour du Monde du Roi Zibeline chez Gallimard. Juliette Arnaud va nous en parler tout à l'heure. On va entendre Rukyata Ouédraogo dans quelques minutes, évidemment Guillaume Meurice. Mais avant tout, d'abord aborder ce premier sujet avec vous. Erdogan a récolté 51% de oui à son référendum. 51% pour se convertir officiellement en dictateur. On a failli perdre Robert Mugabe, qui en a fait une crise de rire. L'histoire d'Erdogan, c'est un peu l'histoire d'une radicalisation graduelle vers le despotisme. Ça arrive très très vite, ces choses-là. C'est graduel.
Cher ami.
Oh, monsieur le commissaire divisionnaire.
Je voudrais vous présenter le commandateur Riganti.
Oh, comme est-ce?
Et son confrère allemand, le docteur Müller.
Sehr angenehm.
J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre.
Ja, s'il vous plaît.
Alors voilà. Un kilogramme kartoffel. Un liter milch. Drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller.
Cet extrait du grand restaurant, comme une allégorie de ce qui nous arrive en Europe et aux portes de l'Europe en ce moment. Jean-Christophe Ruffin, quelle réflexion cela vous inspire-t-il lorsque vous avez découvert le score d'Erdogan à son référendum pour étendre ses pouvoirs, devenir ce despote qu'il croit être éclairé? 51%, c'est quand même une grosse gamelle pour un dictateur, ça, non?
Ah oui, mais je veux pas casser l'ambiance, mais moi, ça me fait pas rire, parce que si vous voulez, enfin...
Je vous rassure, nous non plus, on essaye de prendre de la distance.
Oui, c'est bien. Mais souvenez-vous quand même que, alors, c'est pas pour les comparer terme à terme, mais enfin, Hitler est arrivé au pouvoir de façon assez limite, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait incendier le Reichstag, il s'est débarrassé de tout ça, et finalement, il a fallu une guerre mondiale pour le déloger. Donc, ce qui compte, c'est pas le 51, c'est le 1, quoi. C'est, je veux dire, voilà. Et c'est terrible. parce que la Turquie est vraiment un pivot hein, de la vie européenne. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas dans l'Europe, mais tout est organisé autour de ce pays quand même. C'est un pays qui a toujours été charnière entre l'Est et l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Europe.
L'Europe et l'Asie, oui.
L'Europe et l'Asie, etc. Et là, la laïcité et l'islam, enfin, c'était un modèle d'une certaine façon, avec toutes ses limites, mais le modèle kémaliste, c'était quand même le seul modèle véritablement de république musulmane, laïque. Alors, ça avait été payé très cher, notamment par les Arméniens, bien sûr. Là. Mais quand même, il y avait un acquis très très fort, un socle fort. Puis là, je veux dire, il est en train de se débarrasser de tout ça. Donc, je sais pas. Moi, je suis très inquiet parce que j'ai des amis turcs qui sont encore dans le système. Par exemple, je connais des diplomates turcs. Il y avait une école diplomatique turque qui était de très grande qualité, très francophone d'ailleurs, très très cultivée. Des gens, ils sont toujours là-dedans. C'est-à-dire que c'est curieux pour le moment.
Vous qui avez été diplomate et qui avez donc parlé avec tous ces gens, la Turquie, ils se situent où? Parce que ils sont européens, mais ils n'y sont pas.
Considérer plus et leur tendre un peu plus la main pour rentrer en Europe.
Je pense que si vous voulez, on ne s'est pas rendu compte à quel point c'était tragique et dramatique pour les Turcs, je veux dire, orientés vers l'Europe, de demander des liens plus forts avec l'Europe et de ne les voir jamais se concrétiser. Mmh. Et je pense que ces gens-là jouaient une partie très serrée à l'intérieur de leur pays et ils savaient que, si vous voulez, c'est un pays profondément fracturé depuis longtemps entre une élite extraordinairement cosmopolite, cultivée, internationale, etc. Et puis, voilà, l'Anatolie profonde, enfin, sans dire que c'est purement territorial. Oui. Parce que
d'ailleurs, trois principales villes, dont Istanbul, ont voté non au référendum.
Bien sûr. Bien sûr.
Une dernière question qui renvoie à votre ouvrage. Finalement, on parlait du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, qui a fondé cette République parlementaire laïque, qui était éclairée, on peut dire. Et justement, le premier personnage secondaire de votre roman, c'est Bachelet, le précepteur du héros, qui lui... Bah, quand on dit les lumières, il tire les rideaux, quoi. Il lui ouvre, il repousse les murs, etc. Ce que vous décrivez à ce moment-là, on est au XVIIIe siècle, c'est aussi une charnière vers les lumières. C'est cette charnière-là qui se referme aujourd'hui, il y a un répondant.
Qui se referme, et puis je pense que le combat de ces gens qu'on n'avait pas finalement tellement mesuré, parce que quand on parlait de Voltaire, Diderot, Rousseau, il y a encore 20 ans, si vous voulez, c'était bon, voilà, ils étaient au programme dans tous les lycées, enfin, c'est, voilà. Mais on ne se rend pas compte contre quoi ils ont dû se battre. Ils ont dû se battre contre des théocraties, contre des gens qui étaient, qui représentaient une forme d'hégémonie religieuse et politique terrible. Et comme on voit se reconstituer effectivement ce type de régime autour de nous, eh bien, ceux qui continueront de défendre ces idéaux vont de nouveau souffrir probablement. Et en Turquie, d'abord, parce que c'est là que ça se passe en ce moment. J'espère que ça se limitera à ça, mais c'est vrai que voilà, ça donne une actualité extraordinairement vivante, si vous voulez, à ces combats du XVIIIe siècle qui pourtant nous paraissaient des trucs complètement liés à l'histoire, quoi.
Et qui résonne aujourd'hui. Jean-Christophe Ruffin est avec nous. Et à nos côtés aujourd'hui, Rukyata Ouédraogo. Rukyata, vous portez votre regard sur la France, en gros gros français.
Exactement. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de la parenté à plaisanterie. L'Afrique, non contente d'être le berceau de l'humanité, est aussi son horizon. La langue française en est la parfaite illustration. Songez que d'ici peu, elle sera la seconde langue la plus parlée dans le monde. Et grâce à qui? Grâce à nous. Déjà, il y a plus de gens qui parlent le français en Afrique qu'en France. Un des bienfaits de la colonisation a été de produire une francophonie très peuplée de gens très motivés pour venir faire du tourisme durable à Clichy-sous-Bois, à la Courneuve, dans les quartiers nord de Marseille, etc. Mais les atouts de l'Afrique ne sont pas seulement linguistiques. Songez à notre taux de croissance et à notre dynamisme démocratique. Je blague. C'était pour voir si vous me suivez. En fait, je suis à fond, moi. Je parlais de notre croissance démographique. Mais au-delà de ces choses connues de tous, nous avons aussi une très belle tradition, deux très belles traditions qui peuvent contribuer à sauver le monde. La parenté à plaisanterie. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit des modes de résolution des conflits entre les communautés par l'humour, très répandu en Afrique de l'Ouest et chez moi au Burkina Faso. Quand des communautés ont été en conflit dans le passé, elles restent liées par cette parenté à plaisanterie. Moi, je suis Moussi et nous, les Moussi, nous sommes liés au Gourmanché. Si bien que si dans un village, ça chauffe entre des familles Moussi et Gourmanché, on règle ça par l'humour et non par la violence.
Vous, les Français, vous parlez toujours du fameux rire des Africains qui rigolent avec les grandes bouches et leurs dents blanches. Bon, entre parenthèses, hein, le coup des dents blanches, hein, ça c'est encore un mythe, ça. Vous verriez le chicot de mon oncle. Donc, quand vous nous voyez rire avec nos grandes bouches là, en vérité, c'est qu'on a bien envie de vous botter les fesses. Mais on gère ça par l'humour et non par la violence. Par exemple, moi, quand je fais de la mobilette à Ouagadougou et je me fais arrêter par un flic, si ce flic est gourmanché, moi je lui dis « Oh, esclave, laisse-moi passer avec ta grosse tête-là. » Et il me laisse passer. Oui, un jour à Paris, je me suis fait contrôler par un flic. Il était noir. Ben, du coup, j'ai plaisanté avec lui. J'ai dit « Oh, donc, esclave, ah, pourquoi tu froisses ta mine comme ça là? Ta femme ne t'a pas nourri ce matin ou quoi ?» J'ai passé la nuit au poste.
C'est marrant.
Le mot esclave n'est pas passé du tout. Hein. Il était entier. Alors, imaginez à 20h, vous allumez la télévision. Soudain, une magnifique chevelure dorée apparaît à l'écran. Non, ce n'est pas Donald Trump. Hein. C'est Laurent Delahousse, l'homme qui donne envie à toutes les filles de regarder les infos. Il a le visage grave. Il annonce « Une nouvelle guerre tribale vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Les pertes sont sévères. On déplore 250 morts de rire de part et d'autre. » La France a envoyé une force d'interposition équipée de casques de carambar, dont les blagues sont unanimement reconnues comme étant les plus mauvaises du monde et qui font la fierté de la France. Notre correspondant sur place a pu enregistrer une scène d'une rare violence entre un djihadiste et un combattant burkinabé. Le djihadiste, alors Koubarou, mon frère, tu dois couvrir ta femme, hein, on voit ses formes impures. Le soldat burkinabé, mon frère, tu m'as tué, hein. Mais les femmes ont des formes, c'est parce que Dieu a donné des yeux aux hommes. À cet instant, intervient immédiatement un soldat français d'interposition qui dégaine immédiatement sa blague carambar. Mais quelle est la femelle du hamster? Le djihadiste, le soldat burkinabé, bah on sait pas. Le soldat français, l'Amsterdam. Le djihadiste et le soldat burkinabé, oh c'est nul. Mais attendez les gars, j'en ai une autre. Quel est l'animal le plus heureux? Le soldat burkinabé au djihadiste, oh laisse tomber ce gars, c'est un faux type. Je t'invite à manger un poulet bicyclette qu'on arrosera avec une bonne bière bien frappée. Le djihadiste, une bière, moi une bière, mais tu veux me tuer ou quoi? Bon d'accord, mais juste un peu seulement parce que je ne tiens pas trop l'alcool. Hein. Le soldat français, mais attendez les gars, l'animal le plus heureux c'est le hibou, parce que sa femme est chouette, elle n'est pas bonne celle-là. Alors moi je vous dis, est-ce qu'elle ne serait pas plus belle, plus drôle les guerres si elles étaient menées avec des armes de plaisanterie massive? Mes amis, un jour, le monde comprendra cette grande leçon africaine.
Merci, Rukyata Ouédraogo.
Le diplomate acquiesce.
C'est vrai, on peut vous retrouver aussi avec le Parlement du Rire, oui. L'émission de Maman sur Canal+, à Canal+, Afrique.
Exactement, qu'on va tourner bientôt.
Ah voilà, merci Rukyata. Et tiens, en parlant d'Afrique, en préparant cet entretien avec vous, Jean-Christophe Ruffin, je lisais votre interview par Pierre Maury, critique littéraire au journal Le Soir, que vous avez rencontré à Madagascar, qui est situé là-bas, et vous vouliez signer son blog. Alex, vous êtes allé voir...
Oui, Pierre Maury, en fait, est un critique littéraire belge qui s'est transporté à Madagascar il y a plus de 20 ans, mais qui continue à faire sa chronique au Soir, qui reçoit toutes les nouveautés, qui est un des meilleurs lecteurs, je trouve, parce que voilà, il a justement la distance et puis le temps. Et il se trouve qu'il a beaucoup travaillé comme éditeur aussi, éditeur en ligne, sur ses personnages et notamment sur celui dont je parle dans ce livre, Benioffsky. Et donc, il faut se reporter à son site
Alex.
livrehebdo.fr. J'ai tapé Pierre Maury blog et il semble que là il y a pas mal
on
de textes.
On est en recherche, mais on va trouver, ne vous inquiétez pas, on est sur la piste.
En tout cas, Maury, M-A-U-R-Y, qui vous a
exactement,
trouvé.
On est sur la piste. Conseillé par Jean-Christophe Ruffin, qui est notre invité, qui publie Le Tour du Monde du Roi Zibeline chez Gallimard. On va en reparler avec Juliette Arnaud dans un instant. western arabisant de Sarah Maison. On reprend un peu plus tôt parce qu'il est 17h37 à la barrière de péage de Vierzon sur la 20. Vous êtes bloqué, mais on vous avait dit de partir avant 15h. On ne cesse de le répéter. Vous êtes coincé dans la voiture, tant mieux, comme ça, hop, nous on ferme les portes. Vous êtes prisonnier, vous êtes obligé d'écouter Guillaume Meurice.
Oui, et je vais vous parler sondage aujourd'hui, parce qu'il y en a partout, partout en ce moment. On a même appris dans un sondage Ipsos pour Couille en Or magazine que Brice Teinturier serait le Français le plus heureux. Tu m'étonnes, on est gavé, vraiment gavé de sondage. Même Manuel Valls en a commandé quand il était Premier ministre pour savoir, je vous jure que c'est vrai, à quel animal les Français l'associaient. C'est vrai, hein, c'est véridique. Moi j'aurais dit le ténia, mais bon, on m'a pas demandé. Alors, il y a des sondages partout, mais en même temps, tout le monde est très très méfiant, vu que niveau fiabilité, ils tiennent plus de Madame Soleil pendant une éclipse. Attention tout de même, loin de moi l'idée de faire l'amalgame entre tous les instituts de sondage. Moi j'ai appelé les miens. Ils sont moins connus, mais ils sont pas mal non plus, vous allez voir. On commence avec le professeur Cissé Sissoko de l'Institut Marabout et compagnie. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur les intentions de vote?
Vous voulez que je regarde celui qui va gagner, premier tour et second tour?
Oui.
Alors, excuse-moi. C'est des coquillages.
Ah, c'est des coquillages, d'accord.
Bon, je vous dirai ça, ok? Vous me rappelez dans 30 minutes, s'il vous plaît.
Ah, il y a un petit délai. Il y a un petit délai, mais quand même, 30 minutes, c'est pas mal. Ça va plus vite que les sondages traditionnels. Et la méthode, c'est la même, hein, vous avez entendu. Hein, ceux qu'on connaît, les instituts, ils font ça aux doigts mouillés. Le professeur Sissoko, c'est avec des coquillages. C'est deux écoles, mais ça se vaut. Alors, en attendant la réponse, j'ai appelé d'autres instituts de sondage, notamment celui du docteur Sissou. Quelle est sa technique?
Moi, je prends les noms.
Ouais.
Je l'écris sur une boule papier blanc.
Donc c'est sérieux quand même.
Monsieur, c'est mon travail, c'est sérieux.
Parfois aussi, dans votre travail, il y a quelques charlatans.
Oui, dans tous les travaux, il y en a, ça se trouve.
C'est vrai. Il y a la même proportion de charlatans chez la Sofresse que chez les sorciers, on imagine. Sauf que les sorciers sont moins souvent invités sur BFM TV, hein, faut le reconnaître, c'est la seule différence. Alors en attendant, je continue mon travail de recherche auprès des instituts de sondage avec Maître Dembélé, qui lui est très très occupé en ce moment.
Au bout de 3 jours, voilà, là je peux vous le dire, hein.
Comment ça, au bout de 3 jours?
Parce que j'ai très très occupé là, je n'ai pas de temps pour le faire.
Ah, parce que vous êtes occupé, d'accord. Mais voilà. Sinon, vous auriez pu le faire.
Je peux le faire, oui.
D'accord, là, vous n'avez pas le temps, en fait.
Non, je n'ai pas le temps, là.
D'accord.
C'est 50 euros, là, moi, je peux vous le dire, hein.
Ah, si je vous donne 50 euros, vous pouvez me le dire.
Voilà.
Ah oui, donc c'est pas une question de temps, c'est une question plutôt d'argent.
Quand tu payes ça, je vais voir le temps, hein.
Ah, voilà. Si tu payes, ça réduit le délai, en fait. C'est comme la poste. Ouais, c'est pratique. Alors, 50 euros pour le résultat, c'est moins cher que tous les instituts qu'on connaît. Du coup, j'avais une autre idée en tête. Pour influencer le résultat, ce serait combien?
Pour l'ambiance, le résultat, ça, c'est 100 euros, hein.
100 euros et vous pouvez me faire gagner n'importe qui?
Quand vous voulez. La personne là, vous l'intéressez.
Si je vous dis, par exemple, qu'il faut faire gagner Philippe Poutou, si je vous donne 100 euros, vous pouvez le faire gagner?
Voilà.
Putain! Mais en fait, ce sont pas les Russes qui trouvent les élections. Ça vient d'Afrique subsaharienne.
Oui.
Si Poutou, il lâche 100 boules à Maître Dembélé, à lui, le palais de l'Elysée, ça se joue à rien du tout, cette élection. C'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, est-ce que le professeur Sissoko, que j'ai donc rappelé,
les
propose les mêmes services? Est-ce qu'on peut jeter, par exemple, un mauvais sort sur un candidat?
Oh oui, il n'y a pas de problème, c'est ça, c'est mon domaine.
Ça, vous savez faire ça?
Oui, bien sûr, même si j'appelle en Afrique, tout juste là, aux forêts là-bas, je donne leur nom, et puis son date de naissance, ils vont faire tout de suite la même.
C'est instantané?
Oui.
Ah, c'est pratique, ça.
Il va faire ce que vous voulez, vous voulez pas.
Mais moi, je voudrais que, par exemple, François Fillon, il ait la gastro.
Gastro?
Oui.
Comme vous voulez, il n'y a pas de souci.
Excellent, mais c'est vachement pratique. En plus, comme il passe son temps à serrer des mains, je promets une belle petite épidémie dans les milieux catholiques de droite, là, dans les prochaines semaines. Et c'est pratique, hein, comme sac à vomi, ils peuvent utiliser les pages économie du Figaro. Ça, c'est toujours sympa. Mais reprenons quand même avec le professeur Sissoko et le résultat de ses analyses sur le second tour.
Donc, je fais comme il faut, je regarde.
Oui.
Par contre, j'avais vu deux garçons et une femme.
Deux hommes et une femme?
Vous comprenez?
Deux hommes et une femme pour le deuxième tour.
Ouais.
Ouais, c'est compliqué là alors. Ouais. Ça serait un deuxième tour à 3 personnes.
Ouais.
Ouais, j'ai pas dit que les instituts étaient plus fiables, hein. J'ai dit qu'ils l'étaient pas moins. En tout cas, allez, courage à tout le monde. Il reste une semaine de sondage frénétique, tous plus cons et plus faux les uns que les autres. N'oubliez pas que le principe de sonder, c'est d'aller toujours plus profond.
Merci Guillaume Meurice, en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Et avant de se laisser réembarquer par le roi Zibeline, on va aborder ce deuxième sujet avec vous. L'aide au développement est absente des débats. Elle figure pourtant dans les programmes des candidats. Il faut dire dire que sous le quinquennat de François Hollande, on a plus envoyé de militaires et vendu d'armes que soutenu les ONG. Et au Quai d'Orsay, ça donne quoi? Ça donne ça.
Vous savez que nos radars sont les meilleurs. Je pense que votre royaume tirerait un grand profit de l'expertise de la France. Votre région ne peut pas rester tributaire des États-Unis.
Je ne suis pas un marchand d'armes. Je me troue le cul pour faire avancer la paix et vous me faites vendre des canons comme des cravates ou des codemichés.
Monsieur le ministre, si les entreprises françaises ne reprennent pas pied dans la région, tous les discours...
Mais il ne s'agit pas de discours, Cahu. Il s'agit de politique. Merde. Vous m'avez fait raccrocher avec vos conneries. Martine, rappelez-moi ce con.
Est-ce que c'est comme ça, la diplomatie?
Parfois.
Là, on va revenir à votre casquette d'humanitaire. Vous avez été président d'Action contre la faim, notamment. On a déjà eu droit à 10 débats politiques à la télévision. Si on compte ceux des primaires, ça fait déjà 10. L'aide au développement, elle n'a jamais été abordée. À moins que je me sois endormie sur l'un des 10 hein, pendant 5 minutes, c'est possible. Mais pourtant, quand on parle de crise migratoire, de cette famine qui est déjà là dans la Corne de l'Afrique, etc., est-ce que ça ne vaut pas d'être abordé dans cette campagne comme un thème important, l'aide au développement ?
De façon générale, dans ces campagnes, presque toutes, mais sans celle-ci en particulier, on ne parle jamais de politique internationale. C'est très, très rare. Donc, en fait, voilà, il y a quand même des choses étonnantes qui se passent en ce moment autour de nous. L'élection de Trump, qui est quand même en train de... Enfin, qui est inquiétant un petit peu. Hein. Il se balade avec sa robe de chambre dans la Maison Blanche. Il bombarde à droite, à gauche, on ne sait pas
il
trop.
Il défie Kim Jong-un.
Oui, et puis bon, il tape sur la Syrie, il dit « on a bombardé l'Irak ». Enfin, je veux dire, on a quand même, il y a quand même une situation un peu particulière. On a parlé de la Turquie. Enfin bref, on a tout un ensemble de problèmes qui sont pas du tout abordés, pas du tout, pas du tout. Et en plus avec des gens qui se présentent dont je suis pas certain qu'ils connaissent tous l'emplacement exact de ces pays-là. Si vous voulez, je pense que si on pourriez les interroger, demander à Jean Lassalle. Mais bon, bref, non, mais voilà, je caricature, mais c'est vrai. Alors l'aide au développement, en plus la complexité de l'affaire, c'est que c'est une fusée à deux étages. Parce que le premier étage, il n'est pas très compréhensible. Il faut apporter de l'aide à ces pays, d'accord.
Mm-hmm. Mais il y a des engagements qui doivent être tenus.
Oui, mais je veux dire que ce qui est important, c'est le deuxième étage. C'est l'idée que derrière ce développement, il y a de la sécurité, c'est-à-dire il y a une forme d'équilibre et que tant qu'on a une rive sud de la Méditerranée qui est entraînée dans des crises épouvantables, on peut pas avoir de sécurité. Donc, si vous voulez, le lien n'est pas fait en fait avec un débat, parce que le débat sur la sécurité, il est très présent par contre dans la campagne, mais il n'y a pas de lien qui est fait avec cet environnement. C'est-à-dire on a l'impression que le débat sur la sécurité se résume au nombre de postes de policiers qu'on va créer, etc.
C'est-à-dire que ces débats, on a l'impression de vivre en vase clos en France, alors que, par exemple, le thème de l'aide au développement touche, vous le disiez, à la sécurité, mais aussi aux migrations, etc.
Bien sûr. Mais alors, si vous voulez, c'est un thème qui est un peu complexe aussi, parce que les gens ne comprennent pas non plus très bien comment ça se passe. C'est-à-dire que, par exemple, les ONG, c'est un opérateur important, mais ce n'est pas le seul. Oui. En fait, ce qui est frappant, c'est que surtout, depuis 5 ans, là, je ne dis pas que c'était tellement mieux avant, mais enfin, la politique africaine de la France n'est devenue que militaire. C'est-à-dire qu'on a eu une présence utile, sans doute, hein, au Mali, en Centrafrique, etc., mais que par le biais militaire. C'était important. Mais si vous voulez, en même temps, il n'y a eu aucune initiative par rapport à des pays qui sont très très demandeurs, parce que le Sénégal, la Guinée, Conakry, la Côte d'Ivoire, etc., sont des pays qui étaient à feu et à sang, ou en tout cas en grande difficulté, pas pour le Sénégal, mais les autres, il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui ont consolidé leur situation démocratique et qui sont très demandeurs aujourd'hui de partenariat avec la France. Et en face, personne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils étaient tellement tétanisés par l'idée de ne pas tomber dans la France-Afrique, dans tous ces réseaux, etc., qu'on a débranché tous ces trucs-là. Il n'y avait plus de cellules africaines, il n'y avait plus de...
Et
rien,
là, on tombe
etc.
dans l'excès contraire, c'est ça ?
On tombe dans l'excès contraire. Mmh.
Jean-Christophe Ruffin, merci. On va revenir à votre ouvrage, Le Tour du Monde du Roi Zibeline, chez Gallimard, sous l'œil de Juliette Arnaud.
Oui, même les deux, parce que je lis avec mes deux yeux. Alors, une semaine avant les élections dans notre vieux pays démocratique, comme beaucoup de Français, j'imagine, j'ai trouvé le moyen de m'engueuler à ce propos avec tous mes proches, toute ma famille, tous mes amis. Et ainsi, j'ai même répondu à un type que je connaissais pas, hein, et qui m'expliquait qu'il se préparait à voter Fillon pour des raisons de programme économique super intéressant. Je lui ai dit qu'on en reparlerait quand sa fille avorterait avec un cintre rouillé. Voilà, sa fille a 4 ans, ça a mis une putain de bonne ambiance. Bref, je pense que sur cette lancée explosive, je suis devenue apte à m'engueuler avec une table basse. Ce qui est grotesque, tout le monde en convient. Heureusement, il me reste les amis des internets, de Facebook, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, disent les sondages, Guillaume, 4 candidats au coude à coude et une prévision d'abstention stratosphérique. Possiblement donc l'élection de quelqu'un qui, dès le départ, aura une grosse partie de la population drôlement insatisfaite. Bref, comment occuper cette dernière semaine, hein, ça peut être long, une semaine. J'ai bien réfléchi au lieu de chercher du chocolat. De toute façon, je m'en fous, j'aime ni le chocolat ni les enfants. 2 options me sont apparues. Boire. Ou lire ce livre. Le tour du monde du roi Zibeline. N'hésitez pas à panacher ces 2 options, hein, comme la bière avec la limonade. Oui, Guillaume, comme la proportionnelle. Oui, aussi, arrêtez avec la politique. Pourquoi ce livre? Alors, pour 2 raisons majeures. Il y a 2 raisons majeures, selon moi, à s'attacher à ce roman. D'abord, ça te permet de comprendre ce que peut valoir l'enseignement, justement, des philosophes des Lumières, hein, à l'épreuve de la vraie vie. Et l'option de la fugue, loin, bien loin, très très loin, jusqu'au bout du monde. Alors, le tour du monde du roi Zibeline, c'est l'histoire totalement invraisemblable et pour autant tout à fait authentique, au XVIIIe siècle, d'un Hongrois qui va devenir bagnard en Sibérie pour avoir combattu pour la Pologne, qui arrive en Chine par les mers froides du Septentrion et les côtes de l'Alaska. Mais c'est pas fini. Il devient colonel français. La France est son choix de cœur parce que les philosophes donc de son précepteur, on en parlait tout à l'heure, Bachelet. Et puis parce que sa femme aussi y tient beaucoup, parce qu'elle adore Rousseau, Saint-Preux et la nouvelle Héloïse. Mais c'est pas fini. De là, il part aux États-Unis. Là, il sollicite l'aide du vieux Benjamin Franklin pour repartir à Madagascar et aider les tribus qu'il a participé à unifier pour combattre la France et devenir en fait une nation indépendante comme un peu les jeunes États-Unis. Et là, voilà, le pompon de la pomponnette, le gars, entre-temps, est devenu le roi Zibeline. Alors, comme ça, ça paraît farfelu, hein, c'est comme si je m'annonçais maintenant, je sais pas, reine des licornes dorées au pays de l'arc-en-ciel. Sauf que là, c'est pour de vrai, il est vraiment devenu le roi Zibeline. Alors, pourquoi, grâce à quoi il est devenu ça? Parce qu'il était fort de 2 choses. La première chose, c'était justement qu'il avait le savoir des Lumières, un désir de liberté inoculé par son précepteur Bachelet, et il l'a mis à l'épreuve de la réalité. Et par exemple, il a lu Montesquieu. Donc ça, c'est le savoir. Et lorsqu'il débarque à Madagascar, ça, c'est la réalité. Au départ, pour fonder son comptoir colonial. Après, il a décidé donc d'unifier ses tribus. En partant, en essayant de leur expliquer que fuir la tyrannie, c'était bien. La combattre, c'était mieux. L'idéal étant qu'elle n'eût jamais pu naître. Ce qui est possible quand on arrive sur un territoire comme ça, qui a une existence encore peu importante au niveau des autres civilisations, les grandes. Il est fort d'une deuxième chose, le roi Zibeline, c'est qu'il a l'amour. Alors ça, malheureusement, c'est la partie fictive du roman. Je m'explique, le roi Zibeline a bien épousé la fille de son geôlier sibérien, Afanasie, l'intrépide Afanasie, mais le reste, vous l'avez inventé. Hein, en plus d'être une amoureuse grande classe qui se paye le luxe d'être un genre de féministe, y compris dans son couple, et ça, finalement, dans son couple, c'est le plus difficile. Mais le reste, Jean-Christophe Le Ruffin l'a totalement inventé, et je vais vous dire, c'est tant mieux. Parce que c'est comme si tout était possible ensemble, l'aventure et l'amour, découvrir le monde et l'intime. Et c'est pas parce que Jean-Christophe Ruffin l'invente que c'est pour de faux. Ce sera mon vœu pour Pâques. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud. Merci. C'est donc le tour du monde du roi Zibeline, paru chez Gallimard.
Donc c'est un peu le hussard sur le toit, mais qui choisirait pas.
Ah, on va poser la question à Christophe Ruffin.
Ah, mais j'aime beaucoup le hussard sur le toit en plus. Mais sauf que, si vous voulez, j'ai pas tout inventé en réalité. C'est-à-dire qu'il a partagé cette vie d'aventure avec, mais pas avec Afanasie en fait.
Eh oui, mais c'est que lui, il est voilà. Le vôtre, il est monogame.
Voilà, c'est ça. Il est rendu monogame.
Mais, ça si fait voulez, une bonne grosse différence quand même.
Voilà, il est monogame. Il est fidèle même.
Afanasie qui se déguise en homme pour pouvoir fuir aussi. Et, ouais. Et oui, Jean-Christophe Ruffin, vous êtes un sacré féministe, hein, dans le fond.
Non, mais enfin, en fait, je voulais pas...
Comment ça, non
Bon, stop. Pardon, Joker.
On vous conseille vraiment cette lecture, et vous le disiez, Juliette, en ces temps troublés, se réfugier dans la lecture de ce livre en particulier, une épopée incroyable et réelle, avec Auguste. Vous allez vous prendre de passion pour Auguste, et même s'il a ses travers, et pour Afanasie, bien sûr. Allez, on va aborder ce troisième sujet avec vous, le dictionnaire des mots de Jones. Il est en train de s'écrire dans les quartiers nord de Marseille, sous l'impulsion d'un journaliste, et le dictionnaire avance plus vite que celui de l'Académie. Les vieux Marseillais n'aiment pas qu'on les emboucane, les jeunes pareil, ils n'aiment pas qu'on les camboue. Le Vernon d'emboucané. Petite leçon de langue de jeune.
C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Alors il tape la pose comme un bolosse, et le lendemain, un petit homme lui dit tout de go, « Dessine-moi un mouton gros. » Flagada Jones, il dit « Ok. » Il tatane des moutons façon Botticelli ou Picasso, mais le petit homme, il dit « Ah, c'est de la merde, ça, mon frère. T'es aussi doué que ma tobe. »
Jean Rochefort, qui lit Le Petit Prince, réécrit par le bolos de Belles Lettres. C'est un article qui est paru dans Libération vendredi, où un journaliste fait des ateliers avec les jeunes des quartiers nord, qui disent, bah, nous, on a une langue, qui est notre norme à nous, et puis on aimerait que ce soit un peu reconnu. Ces jeunes, ils disent que les politiques parlent le français bourgeois, sous-entendu un peu aussi, évidemment, le français de l'Académie. On dirait en Afrique le gros français, là.
C'est ça,
Donc, ça ne leur parle pas. Alors, on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut considérer leur langage? Est-ce qu'il parvient jusqu'à vous dans votre maison, dans les montagnes, Jean-Christophe Rupin, quand vous êtes reclus pour écrire?
Même à l'Académie, parce qu'il y a des mots, il y a des mots issus justement des parlers divers, hein, que ce soit régionaux, des banlieues, etc.,
ouais,
qui peuvent entrer dans le dictionnaire d'Académie, mais à une condition, c'est qu'ils soient devenus, dont l'emploi soit généralisé, si vous voulez. C'est-à-dire que si c'est un emploi purement dans un quartier, etc., ça va pas. Et pour nous, en tout cas.
Oui.
Mais là, il y a un dictionnaire, par exemple, des mots régionaux qui vient de paraître chez Larousse, qui est très intéressant, qui donne... tous ces mots-là, on ne peut pas les prendre parce qu'ils sont précisément... Ils n'ont pas élargi, je dirais, leur racisme.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un mot, par exemple, le mot pécho, on va dire, s'utilise beaucoup? Oui. Et dans combien de temps il pourrait, si on continue à l'utiliser?
Alors, nous, on a un problème, si vous voulez, qui est aussi une force, hein, bien entendu, oui, c'est qu'on va très lentement. C'est-à-dire que quand on était à la lettre I, l'Internet n'existait pas. Donc, si vous voulez, il faut attendre donc qu'on en revienne à P. On est à V, puisqu'en ce moment, on a un petit cahier qu'on nous donne à chaque fois, et en ce moment, on est vaseline à vertu. C'est la partie, c'est, ouais, c'est joli.
Donc, il y a un lien avec la politique.
On en est là. Et donc, si vous voulez, on est à V, et puis quand on aura terminé à Z, peut-être on recommencera ou pas. Parce que, si vous voulez, c'est la 9e édition, ça fait quand même 400 ans que ça dure, et on s'interrogera certainement sur le point de savoir si c'est encore légitime de mettre 100 ans pour faire un dictionnaire de nos jours. Mmh. Mais ça, c'est un autre débat. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Charline, quand j'ai lu l'article en question.
Oui.
J'ai compris aussi que dans cet atelier qu'il fait, ce garçon-là, dans les quartiers nord de Marseille, l'idée, c'est pas tellement de faire un dictionnaire des banlieues. L'idée, c'est de montrer à ces jeunes qu'il y a des niveaux de langage, qu'ils ont le leur, qui est tout à fait respectable, mais que s'ils veulent entrer, justement, dans des fonctions, etc., il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres niveaux de langage. Et apparemment, la prise de conscience du fait qu'ils ont un langage spécifique, c'est la première étape, parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils parlent d'une façon spéciale.
C'est leur norme à eux.
C'est leur norme à eux. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de savoir, d'arriver à montrer qu'il y a des niveaux de langage. C'est quelque chose, en Afrique, par exemple, ça me fait toujours rire, parce que c'est toujours surprenant. Quand on lit les journaux, par exemple, au Sénégal, moi, tous les matins, très souvent, il y a des niveaux de langage qui sont utilisés et qui nous paraissent un peu chaotiques, et parce qu'ils ont leur propre manière de voir, si vous voulez. Donc, ils vont dire, le ministre des Affaires étrangères a souligné aujourd'hui que c'était la merde.
On propose justement de vous enjailler un peu. On va s'ambiancer, on va s'enjailler avec vous, Jean-Christophe Ruffin, si vous êtes d'accord.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre, et je vous ai donné le rôle de celui qui gère la permanence du quai de Conti. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux candidats à l'Académie française, et c'est vous qui les recevez ou non. On se rend tout de suite sur place.
Ouais, c'est vous qu'il faut que je voie pour être académicien?
Ah, j'ai bien peur que oui, monsieur Ribéry.
Allez-y, posez-moi les questions. J'ai tout révisé comme si j'aurais dû passer à téléfoot.
Ah ben, je vois que vous avez mis toutes les chances de votre côté. Hein.
Bah ouais, j'ai même lu tous les journaux, comme l'équipe.
Et vous avez lu Rouge Brésil?
J'ai joué le Brésil, mais c'est jaune, Brésil, pas rouge.
D'accord, très bien, on vous rappellera. Candidat suivant.
Non mais allô quoi, je suis une star, je suis pas académicienne.
Bonjour Nabila.
Salut monsieur Le Guev.
Soyez la bienvenue sous la coupole.
Ouais, trop la classe, la people sous la coupole.
Ah, mademoiselle fait de l'esprit.
Ouais, mon esprit c'est comme mon string, j'ai toujours sur moi, mais il sert pas à grand chose.
Bien, et expliquez-moi pourquoi vous souhaitez devenir immortelle.
Immortelle, comme la chanson de Lara Fabian.
Oui, par exemple.
Ah, en fait, c'est surtout votre déguisement qui me fait kiffer, là.
Kiffer?
Oui, bah tu l'as pas encore mis dans ton dico, kiffer, t'inquiète, bolos, dès que je viens ici, je m'en charge. Hein. Dis entre nous, ta casquette, elle tue, hein.
Mon bicorne, vous plaît?
Bicorne? Mais ça veut dire que t'es cocu deux fois, hein? J'espère que tu l'as poignardé, hein, parce que moi, j'aime bien aussi la cape.
C'est le côté sexy qui vous attire?
Grave de grave, je peux toucher votre grande épée.
Oui, enfin, ça on verra. Suivant, s'il vous plaît.
Je vais être très clair, je vais être très clair. Je suis candidat à l'Académie française.
Pour quelle raison, monsieur Macron?
Eh bien, tout simplement parce que c'est mon...
Je sais. Mais je vous rappelle que projet dans notre dictionnaire ne prend qu'un seul E.
Oui, projet.
Il n'est pas nécessaire de crier. À l'Académie, nous ne sommes pas tous atteints de surdité.
Pardon de vous le dire, je me demandais justement si je n'étais pas trop jeune pour le poste.
C'est surtout le nom de votre mouvement qui pose problème.
En marche?
Vous comprenez, pour certains d'entre nous, c'est plutôt en déambulateur. Ça, c'est dur, quand même.
Oui, mais je vais être très clair. Le fait que j'ai été de gauche, alors qu'en fait...
Non, ça, on s'en fiche. On a déjà Alain Finkielkraut.
Jean-Christophe Ruffin, mais qu'est-ce qu'on vous a pas fait faire? Alex, vous m'avez fait dire, je vais toucher votre épée. C'est horrible, c'est horrible. Merci Jean-Christophe Ruffin d'avoir joué le jeu. Je rappelle votre ouvrage Le Tour du Monde du Roi Zibeline, paru chez Gallimard, qui nous a passionnés autour de cette table. Et je rappelle vos discussions du soir avec vous tous les vendredis, c'est ça, entre 22h15 et 23h sur France Culture. Merci beaucoup, voici le mot de la fin. À Erdogan, le seul dictateur à avoir un score aussi ridicule que 51%.
Oui, je suis impuissant et je vous emmerde.